On poursuit ce matin notre série sur le livre d'Exode et on va partager autour du contenu des chapitres 7 à 11. La nuit du 14 avril 1912, alors que le Titanic file à vive allure dans l'Atlantique Nord, son capitaine, Edward Smith, n'écoute pas les avertissements de la présence de nombreux icebergs dans la zone, pour le résultat que l'on connaît. La question est posée, qui a le droit de me dire ce que je dois faire? Qui a le droit de s'occuper de ma vie et d'orienter mes choix? Si ce n'est pas affirmé haut et fort, c'est pour le moins pensé par beaucoup, et peut-être encore plus quand on est en position de pouvoir, qu'on figure parmi les personnes grandes, puissantes et influentes de cette terre. Et c'est exactement la question de Pharaon envers Moïse à sa demande de libérer le peuple de Dieu. On retourne au chapitre 5, verset 2. « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » La semaine dernière, on a survolé les chapitres 5 et 6 et pointé ce problème de l'ignorance de Dieu. On s'est rendu compte qu'au final, ni Pharaon, ni le peuple de Dieu, ni Moïse ne savent vraiment qui est Dieu. Quelle va être la réponse de Dieu à cette ignorance? Eh bien, les 10 fléaux, et par la suite, l'Exode qui suivra. Alors ce matin, on ne va pas aborder les 10 fléaux, mais on va juste se pencher sur les 9 premières plaies. Mais tout de suite, une première question, en pensant à 10 fléaux, à 10 plaies. Pourquoi 10 fléaux? Est-ce qu'une n'aurait pas été suffisante? Exode chapitre 9, versets 15 à 16, dit ceci. Donc, Dieu qui parle et qui dit « J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets, donc Dieu qui parle à Pharaon. » Et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Autrement dit, les plaies que Dieu envoie sont le moyen que Dieu a choisi pour se révéler et pour se faire connaître à travers la terre entière. Alors ce matin, on ne va pas lire les 3-4 chapitres, les 9 plaies, on va juste lire le récit de la première plaie et je vous invite à lire la suite chez vous en pensant à ce qu'on va aborder ce matin. Je vous invite tout de suite à la lecture donc, de cette première plaie, chapitre 7, versets 14 à 24. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin, à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage, sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. » Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, « Voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire. » L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte. Ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous ses réservoirs et leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leur sortilège. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. 9 plaies, 9 premières plaies. L'eau changée en sang, qu'on vient de lire. Il y aura aussi les grenouilles, la venue des moustiques, les mouches venimeuses, la mort du bétail, les ulcères, la grêle et la foudre, les sauterelles, les ténèbres. On assiste dans ces chapitres à un bras de fer entre Pharaon et entre Dieu, sans ambiguïté aucune sur l'issue et la nette supériorité de Dieu. Il n'y a pas photo. À travers ces plaies, Pharaon et le peuple de Dieu, et Moïse et le monde entier, est placé devant au moins 4 évidences de qui est Dieu. 4 évidences de qui est Dieu. Voici la première. Pharaon, comme tous les Égyptiens, croyait en l'existence non pas d'un Dieu, mais de plusieurs dieux. Il était ce qu'on appelle aujourd'hui polythéiste. Les Égyptiens avaient un dieu pour presque chaque élément de la création. Ils avaient le dieu du soleil, ils avaient le dieu du Nil, le dieu de la moisson, de la fécondité, etc., etc. Le dieu de l'amour. Et le pharaon lui-même était considéré comme une divinité par ses pairs. Alors Pharaon n'était certainement pas surpris d'entendre, de savoir que le peuple d'Israël, qui était esclave, avait son propre Dieu. Et le fond de sa question, finalement, c'est plutôt « Pourquoi est-ce que je devrais écouter votre Dieu plutôt que tous mes dieux ?» Nous vivons aussi aujourd'hui dans une société marquée par le pluralisme religieux. Chacun a sa religion et quelque part, quand on entend chacun parler, on se rend compte que toutes les religions se valent. Mais dès que nous affirmons que Jésus est le seul et unique Dieu, que Jésus est le seul et unique chemin, qu'il n'y en a pas d'autre, on entend régulièrement cette même objection. Mais qui est-il ? Qui est-il pour que je lui obéisse ? Pour me dire comment je dois vivre ? Pourquoi est-ce que je devrais l'écouter lui plutôt que les autres divinités ou l'autre divinité auquel je crois ? Finalement, je fais ce que je veux et je crois en qui je veux. Exode chapitre 9, verset 14. « Car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de fléaux contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires et contre tes sujets, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Par ces plaies, Dieu s'attelle donc à détruire un à un tous les dieux de l'Égypte pour montrer qu'il est le seul et unique Dieu. Happy, c'est pas la joie. Happy, dieu de la fécondité, était étroitement lié au Nil. Le Nil devient du sang. Tous les animaux, tous les poissons meurent. Le Nil n'est plus source de fécondité, mais source de mort. Ekhet, autre déesse de la fertilité, était représentée par une tête de grenouille. Des grenouilles qui obéissent complètement à Dieu. Apis et Mnevis, des dieux taureaux. Aucun ne résiste à la plaie qui va frapper l'ensemble du bétail. Sekhmet, déesse des plaies, incapable de guérir l'épidémie d'ulcère. Nout, déesse du ciel, incapable d'empêcher la grêle de tomber, ni le vent d'amener les sauterelles. Ré, le dieu soleil, incapable d'apparaître pendant 3 jours. Et quid des magiciens d'Égypte, capables de reproduire les 2 premières plaies, puis qui échouent et ne peuvent même pas se présenter devant Moïse et le Pharaon à cause des ulcères. Et ils reconnaissent eux-mêmes que c'est Dieu qui agit. Le Dieu d'Israël est unique. Pharaon est placé devant l'évidence d'un Dieu unique. Ensuite, on voit que les mouches arrivent du ciel, les moustiques arrivent de la terre et les grenouilles sortent de l'eau. La terre, le ciel et la mer sont au service de Dieu contre le Pharaon. Toute la création est soumise à Dieu, son créateur. Alors certains prétexteraient que les plaies pourraient être liées à un phénomène naturel ou déclenchées par une espèce de réaction en chaîne. Mais quand on se penche sur le texte et qu'on regarde la manière dont elle se déroule, cela ne laisse aucun doute sur le fait que Dieu en est bien l'auteur. Tantôt, elles sont annoncées à l'avance. Tantôt, le début et la fin d'une plaie est fixé au lendemain. Tantôt, c'est Pharaon qui va fixer le moment de la fin d'une plaie. Et tantôt, ce sera Moïse. Et ainsi de suite. Dieu, le créateur du temps, en est aussi le maître. Et que dire de la distinction que Dieu opère après la 4e plaie, où il permet que toute l'Égypte soit frappée par certains fléaux, sauf la région où se trouve son peuple. Le bonheur pour des agriculteurs. Seigneur, il faudrait un petit peu de soleil par ici. Ici, un petit peu d'eau. Ici, du vent. Pas trop de grêle par là. On limite le champ. Dieu est le puissant créateur du ciel et de la terre. Il agit comme il veut, quand il veut, où il veut et par qui il veut. Pharaon est placé devant l'évidence d'un créateur, d'un Dieu créateur tout-puissant. 3e évidence, Exode chapitre 7, verset 4. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Dieu a été clair. Par ses fléaux, il manifeste son jugement en procédant à une déconstruction de la création. Un pasteur auteur affirme ceci. L'eau n'apporte plus la vie, les animaux ne sont plus au service des hommes. Au contraire, Ils envahissent le pays comme une armée de soldats le ferait. La lumière retourne à l'obscurité et la vie à la poussière. La création revient à son état premier de chaos et de ténèbres. Tout se désintègre. L'Égypte est en ruine. L'essence même de ce qui constitue le monde du Pharaon se désagrège autour de lui pour sombrer dans le chaos, dans les ténèbres et la mort. Les gens autour de nous peuvent éventuellement accepter l'idée d'un Dieu d'amour, mais pas trop d'un Dieu qui juge. Et pourtant, qui d'entre nous, lorsque quelqu'un que nous aimons est maltraité, trompé ou abusé, qui d'entre nous n'est pas le premier à lever le poing et à réclamer que justice soit faite? C'est bien parce que nous aimons ou que nous avons de la compassion pour cette personne. Le jugement de Dieu n'est pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Dieu est un juge juste qui n'innocentera pas le coupable. Il ne laissera pas passer le mal, la haine ou l'injustice comme si de rien n'était. Adam et Ève ont rejeté Dieu. Le Pharaon rejette Dieu. Naturellement, nous rejetons Dieu. Nous vivons même dans un monde qui a rejeté Dieu et qui en subit les conséquences. Et nous assistons à sa désintégration progressive, avançant inévitablement vers la mort. Mais ce jugement de Dieu sur le Pharaon et sur l'Égypte préfigure et annonce un jugement autrement plus grand, autrement plus redoutable à venir, mais qui sera tout aussi réel que ces plaies l'ont été pour l'Égypte. Pharaon est placé devant l'évidence d'un Dieu juge. Enfin, lors de la neuvième plaie, alors que l'Égypte est plongée dans les ténèbres, voici ce que Exode chapitre 10, verset 23 nous dit. « Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. » Alors que cette Égypte tombe en ruine, Dieu opère une distinction pour son peuple lors du 5e, du 7e, du 9e, et on verra la prochaine fois, bien sûr, lors du 10e fléau. Pourquoi cela? On peut se poser la question. Est-ce que c'est parce que les Israélites étaient des hommes, des femmes plus exemplaires que les Égyptiens? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient meilleurs qu'eux? Ils avaient une meilleure morale que les Égyptiens? Était-il irréprochable? Avait-il un cœur pur? Absolument pas. Dieu dira plus tard à Moïse, « Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ce peuple d'Israël fait l'objet du libre choix de Dieu, de sa grâce. Et le salut que Dieu nous offre ne dépend jamais de notre volonté ou de nos efforts. La Bible affirme que personne ne cherche Dieu. Et si nous le cherchons, si on voit des personnes autour de nous chercher Dieu, se poser des questions sur Dieu, c'est parce que Dieu est en train de nous chercher, parce qu'il nous cherche le premier. C'est parce qu'il est en train de chercher certainement ces personnes. Si aujourd'hui nous sommes devenus des disciples de Jésus-Christ, c'est uniquement une grâce de la part de Dieu. Et nous sommes placés devant cette réalité magnifique. Quand Dieu exerce son jugement, il y a toujours, toujours, toujours un lieu de refuge. Lors de son jugement final, Dieu fera aussi une distinction pour ceux qui auront établi leur habitation en Jésus-Christ. Ce sera le seul endroit où l'on sera en sécurité. Parce que bien des années plus tard après l'Égypte, alors que le Seigneur Jésus-Christ est sur la croix, la terre est plongée non pas dans 3 jours d'obscurité, mais dans 3 heures d'obscurité. 3 heures sombres où Jésus a subi pour tous ceux qui croient et placent leur confiance en lui le jugement de Dieu. Pharaon est aussi placé devant l'évidence d'un Dieu sauveur. Je ne sais pas vous, mais pour moi, quand je lis le récit de ces plaies qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, ben cela me met mal à l'aise. Parce qu'alors qu'on voit le Pharaon placé devant l'évidence d'un Dieu unique, d'un Dieu créateur, d'un Dieu juge, d'un Dieu sauveur, on a juste envie de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu ne vois pas ce qu'on est en train de voir là ? Fais quelque chose ! Réagis ! Même tes magiciens l'ont vu et t'ont supplié. Laisse tomber ! Laisse partir ce peuple ! Le pays court à sa ruine. C'est gros comme une maison que leur Dieu est plus fort. Personnellement, j'ai l'impression qu'à la première plaie, j'aurais peut-être laissé tomber. C'est bon, allez-y. Allez-y. Mais non. Il est écrit à plusieurs reprises que le Pharaon s'entête, qu'il s'obstine ou qu'il endurcit son cœur. Cela nous mène à la question de l'endurcissement. L'endurcissement, c'est le refus de croire, caractérisé par l'entêtement et l'aveuglement spirituel. C'est l'image, le terme utilisé nous renvoie à l'image d'un cœur qui devient dur comme la pierre, qui se calcifie, qui se paralyse et devient petit à petit de plus en plus insensible aux choses spirituelles. Et quelque part, plus on observe le Pharaon s'enfoncer, s'entêter, s'obstiner, plus on se dit « c'est de la folie ». Devant toutes ces évidences de Dieu qui sont là devant lui, devant ses yeux, c'est une folie de ne pas croire. Comme c'était tout aussi fou pour le capitaine du Titanic cette nuit-là, de continuer à pleine vitesse dans cette zone d'iceberg, malgré les avertissements qu'il a dû recevoir. Et justement, je crois que ce passage nous montre à quel point le péché, et particulièrement ici, il me semble, le péché d'orgueil peut nous amener à nous endurcir. Le péché a cet effet pétrifiant qui rend progressivement notre cœur insensible à la vérité divine. Pourquoi refusons-nous de capituler ? Sommes-nous trop fiers ? Notre honneur, notre ego est-il en jeu ? Avons-nous trop à perdre ? Pourquoi est-ce que nous endurcissons nos cœurs? Pourquoi refusons-nous d'admettre notre erreur, de nous humilier et de fléchir le genou devant l'évidence de ce Dieu unique, créateur, juge et sauveur? Alors je vous vois venir et peut-être que vous allez me dire « Oui, oui Michael, mais il est aussi écrit » en parcourant ces chapitres, que Dieu rendra le Pharaon inflexible et à au moins 4 reprises que l'Éternel rendit le cœur du Pharaon obstiné ou qu'il endurcit le cœur du Pharaon. Effectivement, d'un côté, Pharaon endurcit son cœur, de l'autre côté, Dieu endurcit le cœur du Pharaon. C'est quelque chose de difficile à comprendre, à articuler, mais pourtant, ce sont 2 vérités qui cheminent ensemble, côte à côte, à travers toute la Bible, parole de Dieu. En fait, quelqu'un le résume ainsi, et je trouvais que c'était plutôt bien dit. Le Pharaon choisit librement de faire ce que Dieu a librement décidé qu'il ferait. Je le répète, le Pharaon choisit librement de faire ce que Dieu a librement décidé qu'il ferait. Mais une chose est certaine, une. Nous sommes et nous serons tenus pour responsables de notre choix. En fait, comprenez ceci, on ne pourra jamais se présenter devant le Seigneur Jésus, le moment venu, et lui dire « Je n'ai pas cru en toi parce que tu as décidé que c'est ce que je ferai. » On ne pourra pas lui dire ça. Justement, Dieu nous appelle à entendre son appel, à entendre sa voix. Et il nous dit dans Hébreux chapitre 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Entendez-vous l'appel que Dieu vous adresse ce matin au travers de sa parole ? Il vous réclame. Il réclame légitimement votre vie. Est-ce que je peux vous encourager, si c'est le cas ce matin, de capituler, de vous humilier et de fléchir le genou devant ce Dieu-là, ce Dieu unique, il n'y en a pas d'autre sur cette terre. Ce Dieu créateur qui a tout créé, la nature qui vous a créé. Ce Dieu juge et sauveur. C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, par exemple, a dit ceci. Il y a 2 sortes de personnes. Il y a 2 sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu « Que ta volonté soit faite » et celles à qui Dieu dit « Que ta volonté soit faite ». Je le relis. Il y a 2 sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu « Que ta volonté soit faite » et celles à qui Dieu dit « Que ta volonté soit faite ». Pharaon avait fait son choix. Et Dieu n'a fait que livrer Pharaon au choix qu'il a fait vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça, le jugement de Dieu, nous livrer au choix que l'on fera. Je termine. Qui est l'Éternel pour que je lui confie ma vie ? Qui est l'Éternel pour que je vive avec ce désir de lui obéir. Il est le seul, l'unique Dieu, Créateur tout-puissant, juge et sauveur. Laissez juste une minute pour réfléchir. Et je terminerai par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ce qu'on a lu ce matin, ce récit, ces neuf plaies, ces neuf premières plaies, qui nous révèlent avant toute chose, qui tu es. Merci pour ce Dieu grand, glorieux, qui s'est révélé au travers de ces plaies, qui a révélé combien tu es le seul, l'unique, combien tu es le Créateur, et que la création dans son entier t'es soumis, combien tu es ce Dieu qui est juge et qui ne laissera pas le mal impuni. Mais tu es aussi ce Dieu qui offre ce refuge dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Merci pour sa mort et sa résurrection, qui sont un énième signe et ô combien important que tu es ce Dieu qui désire nous sauver de la folie, de notre orgueil, la folie de notre péché qui est cette obstination à vouloir mener notre vie en te laissant de côté. Seigneur, je veux te bénir et te remercier pour toutes celles et ceux qui ont déjà fait ce choix de suivre Jésus dans leur vie ce matin et qui sont déjà à l'abri en Jésus-Christ. Seigneur, quelle joie profonde de savoir que nos vies sont entre tes mains, entre les mains d'un tel Dieu. Un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, et combien on peut trouver du réconfort ce matin en pensant à toi, en sachant que rien n'échappe dans ce monde à ton contrôle. Et que oui, même si les choses semblent tourner mal, et on voit des choses terribles se passer autour de nous rappeler que ce ne sera pas le fin mot de l'histoire pour celles et ceux qui t'appartiennent, mais qu'il y aura une vie nouvelle en Christ dans ta présence. Mais voilà, c'est aussi un rappel de ta patience à l'égard de toutes celles et ceux qui ne t'appartiennent pas encore, qui n'ont pas encore fléchi le genou devant toi. Et Seigneur, je te prie que si c'est le cas pour certains d'entre nous ce matin, ici présents, je te prie que tu touches leur cœur et que tu les amènes à cette décision de fléchir le genou, de s'humilier devant ce Dieu bon, aimant, glorieux, majestueux que tu es. Au nom de Jésus, amen.